9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bien le bonjour mes camarades, Maître Serran est ravi de vous accueillir et va tenter autant que faire se peut de répondre à vos questions. Mais je dois vous confesser, mon cher Philippe, que Maître Serran n'a pas le moral.
Ah.
Eh oui, mon petit Philippou, Maître Serran est peiné et par votre faute. Et pourtant, croyez-moi que ça fait quelque chose quand je vous dis mon Philippou. Enfin, ça fait quelque chose, pas de mauvaise interprétation.
Non,
on est d'accord.
J'ai
Maître Serran est peiné car mardi, je parle de mardi dernier, un événement que j'ai ressenti comme un tsunami m'a profondément touché. Et je me suis remémoré plein de souvenirs. Tiens, notre première rencontre, par exemple.
Ah, je sais ce qui s'est passé.
Alors oui, je sais que notre première rencontre, qui remonte maintenant à quelques années, ne fut pas forcément une rencontre pleine de chaleur. Vous en souvenez ?
Allez. Très bien.
Souvenir, il y avait de la neige ce jour-là. Vous étiez venu à mon cabinet sur les conseils d'une personne dont je tairai le nom. Et vous m'avez exposé votre
Sonia,
projet
si tu nous écoutes.
D'émission qui s'intitulerait « C'est tout droit ». À mon tour, je vous ai donné la vision de cette émission. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu dans votre regard que vous n'étiez pas convaincu. Et votre regard disait « Ah, mais il me saoule cet avocat !» Et vous êtes parti, je dois reconnaître.
Relou, je suis parti en courant.
Ah oui, pour ma part, qu'à l'époque, je me suis dit, moi aussi, hein, « Eh, je vais pas travailler avec un ostrogo pareil !» Et puis, quelques jours après, je suis venu à mon tour vous voir au sein de cette radio. Et on peut dire que ça a matché parfaitement. Bon, je dois préciser pour une parfaite information de nos auditeurs que j'étais accompagné de Natacha et Irina, deux amis des Pays de l'Est, qui ont réussi à vous démontrer que j'étais l'avocat de la situation. Mais tout ça a été balayé mardi dernier.
Bah oui.
Alors que j'étais dans ma voiture, j'arrivais sur les Champs-Élysées pour assister à un client chez un confrère. Et en attendant l'heure de mon rendez-vous, je me suis dit, tiens, et si je mettais Beurre FM ? Quelle erreur ! J'aurais mieux fait d'être sourd ce jour-là. Et là, je vous entends saluer les auditeurs. Jusque-là, tout est normal. Et vous prononcez le nom de votre invité. Bonjour, on a invité Maître Couscous, spécialiste en couscousserie.
Il est pas du tout couscous. Hey, alors pas du tout couscous.
Donc vous invitez.
Il était Blanquette.
Un autre avocat que Maître Serran. Et là je me suis dit non mais voilà on est peu de choses, on est walou, rien, nothing. Oh vous avez donc oublié Maître Serran. Mais souvenez-vous de Maître Serran, cet avocat compétent, plein d'humour qu'on a tant aimé, hein. Et j'arrête parce que là ça fait presque rubrique nécrologique. Donc voilà mon cher Philippe, vous aurez sur la conscience d'avoir cette semaine blessé Maître Serran.
Non.
Mais je ne suis pas rancunier. Ah. Car pour vous faire pardonner aujourd'hui, vous m'avez accueilli encore avec Natacha et Irina. Et rien que pour ça, je vous pardonne. Allez,
Et on attend du monde à la mi-temps.
On attend plus du monde. Sabrina, notamment. Et donc, je vous donne la parole au 0153-48-3000. Pour poser toutes vos questions, émission, sous le contrôle de notre Judas, monsieur Philippe Robichon, Beurre FM 7-3, c'est parti.
Non, c'est un avocat, Maître Serran, spécialiste des maladies nosocomiales. J'ai bien compris. Au moment où je l'ai vu arriver, et je l'ai vu, et il vous ressemblait pas du tout, dit, ouais, Maître Serran, ça va lui faire du mal.
Ouais, je sais, ouais. Mais après, je lui ai fait du
beaucoup
mal.
De cheveux. Beaucoup de cheveux, cet avocat. Très la coupe au gel.
Oui, enfin quoi, il a quel âge ?
Je sais pas, sans les taxes, 30 ans, tout mouillé.
Quand il aura votre âge, il n'aura plus de cheveux.
Oui.
Maître Serran, je tiens à préciser que Philippe Robichon a parlé de toi dans cette émission.
Ah. J'aurais dû écouter jusqu'au bout.
Oui, c'est ça. J'ai salué votre mémoire. Bon, c'est un avocat qui officiait.
Bon.
Comment ça va, Maître Serran ?
Bah écoutez, ça va parfaitement.
J'espère. Dans un instant, vous répondrez aux questions des auditeurs. Je voulais qu'on revienne sur une thématique qu'on a évoquée rapidement il y a quelques temps. C'est l'histoire de ces personnes qui sont sur le territoire français, qui ont des contrats à durée indéterminée, qui ont des feuilles de paye et qui pourtant sont sans papier. Et donc finalement, ça paraît incroyable. Et aujourd'hui, on va évoquer les droits de ces sans-papiers, puisque les personnes qui sont sans-papiers ont des droits, même si les lois qui se succèdent ne font que restreindre ces droits. D'abord, techniquement, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est sans-papiers en France ?
Alors, quelqu'un qui est sans-papiers, c'est soit quelqu'un qui initialement était en situation régulière, c'est-à-dire que la personne est venue avec un visa, que la personne a pu obtenir un titre de séjour, et puis, pour des raisons X ou Y, soit la personne s'est maintenue sur le territoire et son visa est expiré et n'a pas fait les démarches auprès des autorités préfectorales, soit la personne était titulaire d'un titre de séjour et puis ce titre de séjour, encore une fois, pour des raisons X ou Y, n'a pas été renouvelé. Donc, déjà, ces personnes-là qui sont venues en situation régulière finissent par devenir ce qu'on appelle des sans-papiers. Et puis, on a le sans-papiers, j'allais dire, de toujours, c'est-à-dire la personne qui est venue par mille et un chemins, qui n'a jamais sollicité un quelconque visa et qui a réussi, après un parcours, et on le sait, très difficile, donc arriver sur le territoire français, ce sont des personnes qui sont considérées, là aussi, sans-papiers. Mais elles n'ont jamais été, à un moment ou à un autre, de leur présence sur le territoire français, elles n'ont jamais été en situation régulière. Jamais. Donc, soit vous n'avez jamais été en situation régulière et vous êtes un sans-papier, soit vous avez été à un moment de votre vie en situation régulière et vous êtes devenu un sans-papier.
Ouais. Mais finalement, on se rend compte que ces personnes ont des contrats durant indéterminé, payent des impôts.
Alors, c'est vrai que ça peut sembler.
Ont des enfants qui vont à l'école.
Ça peut sembler assez curieux, et en particulier pour les personnes qui travaillent, puisqu'on rappelle quand même qu'à partir du moment où vous n'êtes pas autorisé à travailler sur le territoire français, si vous travaillez chez un quelconque patron, vous êtes en situation irrégulière administrativement parlant, mais vous êtes à une double situation irrégulière, puisque vous n'avez pas le droit, par définition, de travailler. Et pourtant, on a des personnes, et moi je le vois au sein du cabinet, donc qui viennent avec un contrat à durée indéterminée. Alors, on pose toujours la question en disant, expliquez-moi comment c'est possible. Il y a deux options. La première option, c'est l'étranger en situation irrégulière qui va travailler avec un titre de séjour d'un membre de la famille, avec un faux titre de séjour. Mmh. Et là, on se dit qu'a priori...
D'accord, donc là il va gruger d'une certaine façon son employeur.
C'est pas l'employeur, entre guillemets...
Qui est en faute,
mais c'est plutôt l'intéressé. Mais on a des employeurs qui n'hésitent pas donc à faire signer des contrats à des personnes tout en sachant qu'elles sont en situation irrégulière. Alors il faut savoir que c'est quand même un risque pour le patron, puisque qu'on le veuille ou non, il n'est pas autorisé à employer cette personne, mais ça existe. Mais à partir du moment où ça a été fait...
Ça veut dire que juridiquement, en tant que chef d'entreprise, donc qu'employeur, vous n'avez pas le droit de signer un contrat à une personne qui n'a pas de papier.
Non, à partir du moment où vous n'avez pas de papier ou à partir du moment où vous êtes autorisé à résider sur le territoire français mais que vous n'êtes pas autorisé à travailler, de facto, vous ne pouvez pas travailler de manière légale. Mais, je vous dis, ça peut sembler curieux, mais on a des patrons
mais qui passent fréquent.
Outre. Bah oui, alors, qui passent outre, pas toujours par bonté de cœur, c'est-à-dire qu'ils savent très bien, et nous on le voit, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de deal, je vais vous employer, je connais quand même vos situations précaires, donc au niveau des conditions de travail, au niveau des horaires, au niveau des charges à porter, et au niveau du salaire, évidemment...
Je ne vais pas vous faire de cadeaux.
Non, tout ça sera revu fortement à la baisse. Donc, il y a ce côté, on va exploiter l'autre. Je n'ai pas beaucoup de dossiers où l'employeur fait ça par bonté de cœur, sincèrement. Alors, il y en a de temps en temps, mais c'est extrêmement rare. Mais à partir du moment où vous avez un contrat de travail, même si juridiquement vous n'êtes pas autorisé à officier, il faut savoir que vous allez quand même bénéficier de tout ce qui découle du contrat de travail. Donc si demain il vous arrive quoi que ce soit et si vous avez un accident de travail, évidemment vous serez couvert, il n'y a pas de difficulté de là-dessus. Ce contrat de travail, vous pouvez aussi l'amener auprès des autorités préfectorales pour demander, cette fois-ci, à être régularisé sur le territoire français. Donc, c'est pris en considération. Je rappelle qu'en 2012, déjà, ce qu'on appelait la circulaire Valls, donc on l'autorisait. Alors, c'est vrai, ça semblait surréaliste et on indiquait que les personnes qui étaient en situation irrégulière mais qui pouvaient justifier d'une activité professionnelle, donc pouvaient demander à bénéficier d'un titre de séjour. Donc, on a des droits qui nous sont quand même reconnus, même quand on est en situation irrégulière. Les droits, en fait, s'accumulent en fonction du temps de présence sur le territoire français. Donc, ce pays, il est ce qu'il est. Tout n'est pas simple, mais on doit au moins reconnaître ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous justifiez d'un temps de présence, à partir du moment où vous justifiez de documents, on va prendre votre dossier en considération. Alors, parmi les documents, on a évidemment donc le contrat de travail, mais pas que. C'est-à-dire que moi, j'invite toujours les personnes à déclarer leurs impôts. Alors, on a parfois des personnes qui sont pas imposables, mais vous avez quand même un feuillet et c'est un document qui va dater votre présence.
Le certificat de non-imposition.
Absolument, mais ça, c'est primordial. Ouais. C'est vrai que j'ai des clients, puisque j'ai pas le droit de travailler, donc peu importe. même si vous n'avez pas, vous n'êtes pas autorisé à rester sur le territoire français, il faut faire ce type de démarche. Ce sont des documents officiels. Vous voyez, quand les autorités préfectorales vous demandent de justifier de X années de présence sur le territoire français, si vous leur présentez un avis de non-imposition ou si vous leur présentez l'attestation de votre cousin, le choix est vite fait. Donc, il vaut mieux un document officiel. Donc, ça, il faut le faire. Et c'est grâce à ces éléments-là que vous pourrez dater et justifier votre présence sur le territoire français. Et si vous pouvez dater et justifier votre présence sur le territoire français, ça vous ouvre un certain nombre de droits. Et puis, ça vous ouvre tout simplement, j'allais presque dire, le guichet des autorités préfectorales qui vous regardent quand même autrement. Parce que si vous arrivez en disant « je suis en France depuis 5 ans et vous n'avez pas un papier » ou alors vous avez une facture parce qu'un jour vous avez acheté quelque chose dans un magasin ou vous venez avec l'attestation de votre cousin, vous n'êtes pas crédible. Donc, ce genre de documents, ce sont des documents qu'il faut absolument conserver. Vous avez la possibilité, même quand vous êtes en situation irrégulière et que vous avez des enfants, bien évidemment, de scolariser vos enfants. Donc ça aussi, il faut reconnaître à ce pays la possibilité de procéder de la sorte, avec quand même beaucoup de mauvaise foi de la part des établissements scolaires, puisque on ne vous dit pas, écoutez, bah non, on ne vous prend pas parce que vous n'avez pas de papier. On a comme réponse, parfois, il n'y a pas de place au sein de notre établissement. Donc, parfois, il faut, voilà, faut y aller au forceps et puis il faut quand même insister. Mais quand on n'a pas de papier, on a évidemment la possibilité de scolariser ses enfants. Et si vous avez une réponse qui est négative, donc il ne faut pas hésiter à faire le forcing, puisque de toute manière, il est illégal de refuser de scolariser donc, les enfants des intéressés. Quand vous êtes en situation irrégulière, vous avez quand même une couverture sociale. Il faut savoir, avec un temps de présence à minima de 3 mois. Si vous justifiez d'un temps de présence à minima de 3 mois, donc vous pouvez bénéficier d'une couverture sociale. Alors évidemment, hein, ce n'est pas pour aller faire de la chirurgie esthétique ou se faire planter des cheveux quand on est chauve comme vous, mais pour... voilà, on peut le dire, ça, je trahis
le secret. Non, mais on fait de la radio, maître Serran, donc on n'est pas obligé de...
Je le signale. Mais voilà, les soins dentaires et autres. Alors pareil, c'est presque médisant ce que je vais dire. Je ne sais pas forcément la grandeur d'âme de la France hein, que d'accorder ça, mais c'est pour éviter évidemment que telle ou telle pathologie finisse par atteindre les uns et les autres. Donc c'est une question de santé publique aussi, mais c'est tant mieux pour les personnes qui peuvent bénéficier de ces droits. Donc on a quand même, quand on n'a pas de papier dans ce pays, sur le territoire français, la possibilité d'accéder à un certain nombre de droits. Et quand les choses sont bien, eh ben, il faut quand même le signaler.
Bien. Comment est-ce qu'on fait valoir ces droits?
Alors, c'est toute la difficulté. Alors, j'allais dire, vous voyez, pour l'aide médicale gratuite, donc il va falloir, dans ce cas-là, aller auprès du service de la sécurité sociale. Mais c'est évidemment à charge pour vous de justifier que vous êtes arrivé sur le territoire à telle date. Alors, si vous êtes rentré avec un visa, y a une date et il n'y a pas de difficulté, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a des personnes qui rentrent mais sans visa. Donc ça devient, entre guillemets, en tout cas ça peut devenir compliqué pour les personnes qui seraient dans l'incapacité ou dans la difficulté d'apporter la preuve. La charge de la preuve incombe à celui qui vient réclamer son droit. Donc si vous pouvez justifier de toutes ces démarches, si vous pouvez dire que vous étiez présent à telle date, sans avoir de visa, c'est pour ça que je vous parlais d'attestation des uns et des autres, ça vaut ce que ça vaut. Je ne dis pas qu'en présentant l'attestation de votre voisin qui dit « bah oui, il est là depuis 3 mois, ça passe à tous les coups », mais voilà, vous avez quand même une base sur laquelle vous pouvez partir. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. N'attendez pas de la part de l'administration des efforts pour que ces derniers essaient de régulariser votre situation. Donc tous les éléments de preuve, il va falloir les conserver précieusement. C'est difficile pour ces gens-là puisqu'ils se déplacent beaucoup. Voilà, nous on le voit, hein, ils ont des petits sacs en plastique, donc voilà, c'est pas, ils n'ont pas un domicile fixe.
Ouais. Constituer un dossier, ça paraît simple de garder. Ouais,
je vous assure que pour ces personnes-là là, qui font que des allers-retours ou qui sont chassées d'un endroit à un autre, conserver des papiers, c'est vraiment une misère.
Alors, Maître Serran répond à vos questions dans un instant. Je vous rappelle le numéro du standard de Beurre FM, c'est le 01 53 48 3000 que vous composez. 01 53 48 3000. Et puis, pour tous ceux qui ne souhaitent pas passer à l'antenne et qui voudraient évoquer une situation privée avec Maître Serran, vous pouvez l'appeler au téléphone d'abord.
Hein, oui, ouais. Évidemment, 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Voilà, maître Serran attend vos questions au 01 53 48 3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h, 10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et le vendredi, c'est Maître Serran qui est avec nous de 9h à 10h. Maître Serran, que vous appelez et interrogez au 01 53 48 3000. On va prendre vos appels dans un instant. Pour terminer sur cette question des droits des sans-papiers, pour ce qui concerne le mariage, Maître voilà, Serran, donc, ce qui veut dire que, si j'ai bien compris, la mairie ne peut pas s'opposer de célébrer une union.
C'est-à-dire que la mairie a pris l'habitude, quand on constate que l'un des conjoints est en situation irrégulière, de prévenir le procureur de la République quasi automatiquement maintenant. Mais de toute manière, vous pouvez passer outre, parce que d'abord, le procureur de la République peut considérer qu'il s'en fout royalement. Mais si le procureur de la République s'y oppose, il peut s'y opposer que quelques temps, et puis il y a une procédure pour passer outre. Mais, et j'ai vu des personnes arriver à mon cabinet, ça semble assez curieux, mais on a des personnes qui sont en situation régulière, qui font la démarche à la mairie, qui viennent vous voir et qui vous disent « je me suis marié avec Madame X ou Monsieur Y », et le conjoint est en situation irrégulière. Donc, ça,
et l'amour, rien. Qu'est-ce que vous en
non,
faites
on s'en fout. Encore une fois, ben,
l'amour,
c'est
important.
Non, mais je vous assure, non. Parce que c'est peut-être l'amour, mais c'est un boulet supplémentaire. Donc ne vous encombrez pas d'un boulet supplémentaire, quitte à vous marier. Mariez-vous avec quelqu'un qui est en situation régulière. Alors, si en plus elle est de nationalité française et si en plus elle est mignonne,
voilà, voilà, d'accord, et que vous l'aimez.
Bah c'est vraiment important, ça. Bah, on se posera la question une fois que mon client aura été régularisé.
Ah, ouais, alors... Bon,
mais voilà,
ouais, d'accord. On fera une émission la semaine prochaine sur les mariages de mais, couleurs différentes, si
mais
vous voulez bien.
Mais faites pas tout ça.
Du blanc au gris.
Voilà, avec une personne en situation irrégulière, ça ne sert à rien. Voilà, donc la précision est apportée.
Bien, alors, on a Shadia qui est avec nous au 01 53 48 48 3000. Ouais, Shadia, bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour maître.
Bonjour
voilà.
Shadia.
Bonjour monsieur maître. Alors moi j'ai un cas particulier, voilà, moi je suis mariée, c'est mon deuxième mariage. Hein. Bref, je ne vais pas raconter ma vie.
Non, mais là vous racontez un peu quand même. Là. Deuxième
ouais,
mariage.
Bref, je suis, je suis sur mesure curatelle. Et moi, mon problème...
Alors, vous êtes,
sur mesure de curatelle,
vous êtes
si
placé sous curatelle ?
Hein ?
C'est vous qui êtes placé sous curatelle ?
C'est moi-même.
D'accord.
Moi-même. On m'a dit que les personnes qui sont protégées par la loi, soit c'est pour faute ou soit pour séparation. Moi, je suis séparée de mon époux depuis mai cette année. Hein.
De votre deuxième mari.
Voilà, le deuxième.
Oui.
Mon deuxième, parce que voilà.
D'accord.
Et j'aimerais bien savoir comment ça se passe pour des personnes. Excusez-moi, mais bon. Pardon.
Il a compris trop tard, c'est ça?
Il a compris trop tard. Bon, bref, voilà. Et est-ce que c'est vrai? Parce que moi, je vais divorcer, là, j'entame le divorce, là, je suis séparée, j'ai fait le nécessaire. Pour aller au commissariat. On m'a dit que ce n'était pas obligatoire, mais moi, j'ai fait nécessaire de faire une main courante au commissariat, comme quoi qu'on est bien séparés.
Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. C'est vous qui êtes parti du domicile ou c'est monsieur ?
C'est monsieur.
D'accord. Monsieur. Donc, non, il faut le signaler. Hein, ça, c'est important.
Vous avez été placé sous curatelle, pardon, de ma curiosité, mais par qui ?
Parce que madame rit tout le temps, c'est pour ça.
Non, mais parce que je ne vais pas raconter ma vie.
Non, mais bien sûr.
Non, mais c'est votre mari qui a demandé le placement ou pas ?
Non.
Ah bon ? C'est ça que je voulais savoir.
Non, c'est moi-même. On m'a proposé et après, on m'a forcément proposé, là, c'est bientôt, là, ça finit là en mai cette année, là, on n'a pas de souci. Ça finit en mai cette année. Et l'année prochaine, en 2019, et que moi, j'aimerais bien faire la demande de divorce. Comment faire pour faire cette demande de divorce ?
Vous faites la demande, j'allais presque dire, sans différence particulière. C'est-à-dire vous allez vous adresser à l'un de mes confrères, il va rédiger une requête, il enverra une copie de cette requête au juge des tutelles.
Voilà. Oui, mais monsieur, mais moi, je suis en mesure de protection.
Bon, mais de curatelle, pas de tutelle.
Non, curatelle.
Voilà.
Curatelle.
La question, c'est de savoir comment une personne qui est placée sous mesure de curatelle peut-elle divorcer ? Est-ce qu'elle le peut ?
On m'a dit soit c'est pour faute ou soit pour séparation. Moi, je suis en plein dedans, en séparation. Alors, ça va prendre combien de temps pour divorcer de cette personne.
Ah non, mais ça, c'est autre chose, le timing. Moi, je vais vous répondre d'abord sur la procédure. Il y a une mesure de protection. Vous avez un magistrat, donc il y a un moment ou un autre s'est prononcé sur votre situation. Donc, de toute manière, il va falloir informer le magistrat de cette démarche. Ouais. Bon, voilà, alors évidemment, il va pas vous dire, bah non, faut pas divorcer, mais il va falloir l'informer. Ensuite, alors si c'est une question sur le timing, j'allais presque dire, alors tout dépend évidemment des juridictions, mais il faut savoir qu'entre le moment où vous déposez la requête et le moment où vous êtes reçu par la juridiction, allez, on va dire un délai normal qui peut varier d'une juridiction à une autre, mais ça peut, on appelle ça la tentative de conciliation, ça peut prendre, allez, on va dire 4 mois, c'est entre guillemets le délai plus ou moins normal. Alors parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins, mais voilà une moyenne. Et une fois que l'ordonnance de non-conciliation, c'est-à-dire la première décision qui a été rendue par le magistrat, aura été envoyée aux uns et aux autres, à charge pour vous, si c'est vous qui engagez la procédure, de ne pas perdre de temps et d'inviter votre avocat à rédiger ce qui s'appelle une assignation. Alors après, le timing, madame, va dépendre beaucoup, alors pas que de vous et de vos diligences, mais voilà, de monsieur. C'est-à-dire, est-ce qu'il va s'accrocher à tout, vérifier tous les détails et puis batailler pour dire...
Monsieur ne va pas s'accrocher à tous les détails parce que monsieur, bon, moi je suis française, je vivais d'origine algérienne, hein, peu importe, hein, peu importe, moi je suis de la Tunisie, peu importe. Monsieur ne va pas s'accrocher à tous les détails parce que... Déjà, bon, il n'a pas le choix, parce que, bon, monsieur ne travaille pas, monsieur ne veut pas bosser, moi, c'est pour des raisons, et ces raisons et tout. Il ne va pas s'accrocher à tous les détails, parce que, voilà...
Enfin, ne pas travailler, ce n'est pas une faute, hein.
Non, ce n'est pas une faute, ouais, hein. Je suis d'accord avec ça. Non, ce n'est pas une faute du tout, ça, je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas une faute, non, ce n'est pas ça. Mais X raisons, bon, le mariage, pas d'elle, il y a plein de trucs qui rentrent.
D'accord.
Voilà. Mais vous avez déjà un troisième mari dans le...
Non,
Shadia, est-ce que vous avez déjà repéré un prochain ?
Non.
Ah bon ?
Le divorce, c'est du premier de ma fille qui a pris ce temps, qui a pris 3 ans le divorce, parce que, bon, il y avait des malentendus et tout. Là, c'est fini, là.
C'est fini, là.
Ah bon. Bref, c'est bon. Fini. En bref, c'est à 47 ans, c'est fini. Je crois que c'est fini à mon âge. Bref, bon, c'est pas fini, mais je veux dire que je peux me remarier. Voilà. Et est-ce que j'ai le droit de faire... est-ce que c'est... Parce que moi, je vais faire la demande juridictionnelle. Donc, il faut attendre combien de temps pour faire cette demande juridictionnelle ?
Alors, soit...
C'est assez long.
Oui, alors, c'est long. Encore une fois, alors, tout dépend des juridictions, mais oui, c'est très long. Oui. C'est-à-dire, soit vous déposez le dossier d'aide juridictionnelle et puis vous attendez un retour du bureau d'aide juridictionnelle et on va vous dire, votre avocat, c'est Maître Truc ou Maître Y. Soit vous allez voir un avocat et vous lui demandez s'il accepte d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle. Et dans ce cas, il va vous faire une attestation qu'il faudra déposer avec ce fameux dossier, mais la procédure, vous pourrez l'attaquer immédiatement.
D'accord. Mais moi, c'est sur la juridiction nanterre, parce que j'habite dans 92, et on m'a dit que la juridiction nanterre est assez compliquée au niveau de ça.
Enfin, ils ne sont pas plus compliqués que le 93 ou le 95, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est assez long, mais il n'y a rien qui vous interdit d'appeler des confrères du 92 et vous leur poser la question, ou s'ils vous disent oui, on intervient, ils vous enverront une attestation.
Bien, voilà Shadia, tenez-nous surtout informés. On vous fait un gros bisou. Boualem est avec nous, ou Boualem peut-être. Boualem ou Boualem ?
Boualem.
Boualem, bonjour, bienvenue Boualem.
Merci, c'est gentil. Je vous appelle parce que j'ai un problème de polygamie. Je voudrais faire venir mes enfants d'Algérie.
C'est la journée.
Donc, j'étais marié avec une dame de nationalité française.
Ouais.
Et avec un accord commun, on a pris un avocat, un même avocat, on a divorcé en 2004. Mais entre-temps, je me suis marié en 2003. Et là, je ne sais pas si j'ai le droit ou je vais être frappé.
Alors, pour comprendre, c'est-à-dire que vous avez divorcé avec la personne de nationalité française en 2015 ?
En 2004.
Ah, 2004, d'accord.
Oui.
Elle était de nationalité française ?
Oui, il y avait une nationalité française.
D'accord.
Moi, je me suis remarié en Algérie en 2003, en attendant le divorce.
Ah, d'accord. Donc, vous êtes remarié avant, et d'accord. Et vous avez divorcé en 2004 ?
En 2004, oui.
D'accord.
Le jugement était sorti en 2004. Ouais.
Donc, alors j'imagine que le mariage de 2003, c'était au pays.
Oui, au pays.
D'accord. Ça. Donc, et là, la difficulté qui se pose, quelle est-elle ?
c'est de ramener mes enfants ici. Comme j'ai les moyens maintenant, j'ai une maison, j'ai tout ce qu'il faut.
Ouais. Et effectivement, on pourrait vous rétorquer que tout ça, ça s'appelle la polygamie.
Oui. Ouais. Mais je ne sais pas s'il y a prescription après.
Non, il n'y a pas. Ah non, non, il n'y a pas. Il y a pas prescription en la matière. C'est-à-dire qu'il pourrait évidemment, si l'administration est pointilleuse et en règle générale, elle l'est. Ouais. Mettre ça en avant, ouais. C'est, mais on a beaucoup de compatriotes qui sont dans cette situation, dans leur précipitation de multiplication de mariages, sans se poser la question si demain, après-demain, ça peut ou ça pourrait poser difficulté. Donc c'est un retour de bâton qui est parfois assez pénible. Mais oui, il pourrait vous le rétorquer, et puis après. À part les enfants, demain, quand ils seront plus grands, s'ils ont envie de venir sur le territoire français, ils feront leur démarche tout seuls. Mais par rapport à vous, c'est un obstacle qui est sérieux. Hein.
Mais comme je suis né en 62 mètres, est-ce que je peux demander la réintégration, sachant que mes enfants sont en Algérie ?
C'est pas exclure, sauf que vous avez bien compris que les autorités françaises pourraient toujours vous rétorquer ça. C'est-à-dire qu'on vous dit, attendez, vous souhaitez devenir français, mais par définition, voilà moi ce que j'ai à vous reprocher. J'ai à vous reprocher que vous n'avez pas respecté la loi à l'époque et que la polygamie chez nous, monsieur, voilà, n'est pas recevable. Donc ils auraient le droit de mettre ça en avant, hein.
Même pour une réintégration.
Ouais, oui. Non, mais alors il faut savoir pour les réintégrations, il faut savoir pour les demandes de naturalisation que les autorités françaises sont extrêmement pointilleuses. C'est-à-dire parfois pour des broutilles et des détails, on vous claque la porte au nez. Donc là, ce que vous êtes en train de me raconter, c'est pas un détail, voyez. Donc ils pourraient mettre ça en avant. Hein.
Et si je mets juste la dernière question. Et si je divorçais en Algérie pour me remarier par la suite ?
Ben ouais, ce serait peut-être une option. Alors pardon, je vais raisonner comme les autorités préfectorales et jouer le type de l'administration super tordu. Donc vous divorcez, vous vous remariez, on est d'accord avec la même personne.
Ouais.
Bon, on pourrait considérer que c'est ce qui s'appelle un détournement de la loi, c'est-à-dire que, voilà, ce monsieur, on l'a vu venir, il sait très bien qu'il peut pas...
Mais ils le sauront qu'après.
Oui, mais après, il n'y a pas de difficulté, on peut retoquer tout ça.
Et ah puis, oui, ah d'accord. Bah ouais, donc, vous voulez dire après. Non,
ouais. Ouais, c'est un détournement de la loi, objectivement parlant. Donc, c'est peut-être une option. Maintenant, vous dire que c'est une bonne option à 100%, ce ne serait pas sérieux
mais
de ma part.
Ça se tente ou pas pour Boilem ?
Oui, non, mais bah, de toute manière, il n'a pas mis le choix. Donc,
ça se tente avec un divorce au pays.
C'est la moins pire des solutions.
Ouais.
C'est peut-être la moins pire des solutions.
Ouais.
C'est, je vous dis, on a parfois des compatriotes qui nous appellent pour ce genre de situation. Ils ne s'en rendent pas compte au moment où tout ça se produit. Mais il y a un retour de bâton.
C'est-à-dire que même si au moment présent, donc vous êtes plus polygame là, Boilem.
Oh, pardon.
Vous n'êtes plus polygame, vous n'avez qu'une femme là aujourd'hui.
Non, c'est que j'ai divorcé de la première femme.
D'accord, mais là vous n'en avez plus qu'une femme.
Oui, j'ai qu'une femme.
D'accord, donc ça veut dire que l'administration française va donc reconnaître la polygamie antérieure.
Bah oui, au moment où il s'est marié, il était, le divorce, a priori, n'était pas encore prononcé et donc encore moins transcrit. Donc,
bien ça.
Ouais, donc c'est vrai que parfois, il faut, j'allais dire, se serrer les couilles. Donc on ne dit pas couilles. Donc il faut parfois...
Se serrer les coudes.
Les couilles. Ah, les coudes.
Les coudes. C'est pas la même chose.
Non,
c'est pas au même endroit. Je vous expliquerai, maître Serra.
Merci bien. Non, mais il faut faire attention, entre guillemets, à ce genre, j'allais dire, de précipitation, parce que je vous assure que, vous savez, l'administration française a la mémoire longue et très longue. Donc des vieux trucs comme ça, ça ressort. Et ça peut vous mettre en porte-à-faux. Et d'ailleurs, vous l'êtes, là. Donc, et je vous le redis, même si vous divorcez, vous vous remariez, c'est pas certain que l'administration se dise pas, ce type, il veut faire le malin.
Mais ça se tente.
Ah, bien sûr. Il faut pas hésiter, faut le tenter. Et puis, quitte à divorcer, autant se remarier avec quelqu'un d'autre. Bon, pas non plus retrouver la même marmite et la même soupe. Non, voilà, Boilem.
Merci, c'est gentil.
Allez, bon courage à vous.
Bon week-end. Au revoir,
merci bien.
Vous nous tenez informés, Boilem. Dans un instant, c'est Jamel qui sera avec nous. Et si vous avez des questions à poser à Maître Serran ce matin, composez donc le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
vous poser toutes vos questions juridiques à Maître Serrano, 01 53 48 3000. Tous ceux qui ne veulent pas passer à l'antenne parce qu'ils ont le trac, ils ont peur d'être confrontés à Maître Serrano en direct, ce que je comprends forcément. Vous pouvez l'appeler sur son téléphone portable.
Et ils m'auront en direct aussi. Hein.
Oui.
Non, on précise. Bon. Mmh. Donc 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Voilà, vous avez une adresse mail également, Maître Serrano.
Aussi, oui, Maître. Oui. M-A-I, pas d'accent circonflexe, un T-R-E, point Serane, S-E-R-H-A-N-E, @gmail.com.
Jamel est avec nous au 01 53 48 3000. Jamel, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour à vous, Maître Serane et Philippe.
Bonjour,
bonjour Jamel.
Bonjour, les auditeurs auditrices. Vous souhaitez un bon vendredi pour commencer.
Ça commence bien.
Bon, la politesse, voilà, ça nous permet de, on va dire, garder un peu les pieds sur terre et ne pas s'envoler avec les bêtises qu'on voit droite à gauche.
Bien. Jamel, qu'est-ce que Maître Serrano peut faire pour vous?
Alors, j'avais deux questions, mais je vais d'abord poser celle de mon épouse, concernant mon épouse. Voilà, donc, je me suis marié avec une ressortissante algérienne. Tout se passe bien, d'ailleurs, notamment au niveau administratif, sauf que, tout simplement, on a demandé un échange de permis, comme on doit le faire, c'est-à-dire ça a été déposé dans les règles de l'art. Les papiers ont été fournis auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye avec une attestation de dépôt, bien entendu dans les un an après la délivrance.
Ouais, donc il y a un délai à respecter, donc tout ça a été fait.
Exactement.
D'accord.
Dans le délai de un an à partir de date de délivrance du titre de séjour. Malheureusement, cette semaine, elle est partie faire un renouvellement en attendant le permis définitif. La sous-préfecture l'a informé que ce serait la dernière fois, puisqu'on va arriver au un an de cette attestation à la fin du délai accordé. On n'a pas eu de réponse de Nantes, et moi j'aurais aimé savoir l'éventuel recours, en tout cas la procédure à suivre, pour demander à Nantes, solliciter Nantes pour avoir des nouvelles là-dessus.
Il n'y a pas de recours particulier pour solliciter ce genre d'informations. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est éventuellement vous préparer, si demain les autorités préfectorales considèrent que c'est une fin de non-recevoir, c'est-à-dire on vous dit, c'est trop tard, c'est terminé, et puis vous oubliez l'échange du permis, à vous de prouver que vous avez, alors d'abord fait les choses en temps et en heure, mais ça vous l'avez fait. Mais envoyez dans ce cas-là peut-être un recommandé AR à Nantes, vous voyez, puisque c'est ce document qui, évidemment, va dater le fait que vous avez, vous, sollicité les informations. Après, monsieur, que Nantes fasse l'effort d'apporter une réponse ou pas, vous n'y êtes pour rien. Si demain, vous devez vous retrouver devant un tribunal pour dire que les autorités préfectorales se trompent, je justifie de tout, j'ai même demandé, en tout cas fait des démarches auprès de Nantes, mais Nantes ne m'a pas répondu, vous ne serez pas, en tout cas, madame ne sera pas fautive. Donc, voilà. Vous, ce qu'il faut, pour l'instant, il n'y a pas mieux que le recommandé AR. Vous pouvez éventuellement envoyer un mail, mais bon, on n'a pas toujours les bonnes adresses de ces services-là. Mais un recommandé AR, c'est pour l'instant ce qui pourrait, entre guillemets, vous protéger. Et si c'est une réponse négative, parce que ça peut sembler curieux, mais souvent les autorités préfectorales refusent ces histoires de changement de permis alors que tout est fait dans les règles de l'art. Mais les tribunaux les sanctionnent. Voilà. Donc si vous avez fait le nécessaire en temps et en heure, un tribunal administratif vous donnera raison, tout en sachant, pour être tout à fait clair, qu'un tribunal administratif, pour ce type de dossier qui peut sembler très simple, mettra à minima une année pour apporter une réponse.
Fait,
et voilà, donc quand on peut éviter le côté contentieux, c'est tant mieux, mais parfois l'administration vous pousse à ça. Donc, sachez que vous êtes dans votre bon droit, si tous les délais ont été respectés, et puis il faudra contester devant un tribunal administratif au cas où.
D'accord, l'AR, le courrier avec AR, il va partir aujourd'hui justement.
Ouais.
Et y a-t-il, une pièce inversée à ce courrier ou...
Non, j'allais dire, si les autorités préfectorales vous ont remis un courrier avec un numéro de dossier et autres, donc une copie de ces éléments-là pour justifier que le boulot a été fait en temps et en heure et correctement, en espérant, alors je dis bien en espérant parce qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts par rapport à ça, en espérant qu'ils puissent vous apporter une réponse.
Oui, voilà, c'est ça aussi qui me fait un peu peur. Après, c'est vrai qu'ils ont une charge de travail, on va pas...
Ouais, alors c'est vrai qu'ils... Bon, voilà, je ne vais pas être de mauvaise foi et dire qu'ils passent leur temps à rien foutre, mais bon, voilà, ils font pas beaucoup d'efforts. En fait, ils font pas beaucoup d'efforts en fonction de la nature des dossiers. Tout ce qui est histoire de changement de permis, de droit des étrangers, tout ça, je dois reconnaître que les juridictions ne mettent pas le paquet là-dessus. Bon, mais c'est comme ça, hein, on est habitué, je ne vais pas faire semblant d'être, de découvrir ça.
Alors, Jamel, votre deuxième question, Maître Serran.
La deuxième question, c'est que voilà, moi j'ai repris un emploi donc sous la forme d'un CDD en attente d'un CDI, et j'arrive à terme du deuxième CDD. Maintenant, j'aimerais savoir, en gros, le 30 novembre, je suis à la fin de mon CDD. Je voulais savoir, est-ce que je peux demander à être mis en CDI comme c'est prévu, ou dois-je attendre la fin de mon CDD?
Non, ce serait peut-être mieux de le demander. Après, il y a des choses qui se passent. Maintenant, vous voyez, c'est tellement infinitésimal, mais je le dis quand même. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand vous avez un CDD et que le type retourne au boulot le lendemain alors que son CDD est expiré depuis 24 ou 48 heures, à partir du moment où vous avez été, entre guillemets, accepté et repris dans la boîte, ça se transforme de facto en CDI. Bon, c'est une carte à tenter si l'employeur, et c'est en fonction aussi de la manière dont les sociétés sont organisées. Sinon, la logique voudrait de pas attendre la veille ou alors le lendemain pour évoquer ça avec le responsable de la boîte. Il vaudrait peut-être mieux, d'abord, ça va être bien pour tout le monde, vous aurez une réponse et vous serez fixé. Et puis, la boîte verra que...
En général, les emplois du temps sont distribués au moins une semaine avant.
Voilà, donc tout dépend de la nature des activités, mais c'est vrai que s'il y a ça... Non, selon moi, voilà, ça sert à rien de jouer le malin, c'est pas le cas, mais d'attendre la dernière fraction de seconde. Il vaut mieux, monsieur, avant l'expiration du CDD, aller faire un saut à la direction et puis être fixé, entre guillemets, sur la situation et votre sort.
D'accord. Donc, je n'aurai pas de notification de la part de mon employeur.
Ah non, non. Non. Le CDD, il y a une date d'entrée. Il y a une période où parfois on vous précise même la date de sortie. Donc, non, on ne va pas... Voilà, si votre question... ou votre interrogation, c'est de dire si je fais rien, est-ce que mon employeur, 15 jours, une semaine avant, ou est-ce qu'il va me passer un coup de fil pour ? Non. Et il n'a pas à le faire. Bon, après, il n'y a rien qui lui interdirait, mais c'est pas prévu par les textes, ça. Hein. Donc, en règle générale, il ne s'embête pas avec ce genre de démarche. Mais c'est une grosse boîte ?
Oui, plutôt.
Ouais,
plutôt.
Donc il ne s'embête pas avec ce genre de démarche.
Oui. Bah, j'aurais dû choper mon DRH qui était là hier.
Ah ben, ça, voilà. Dans ces cas-là, quand on a des interrogations sur les renouvellements de contrat, oui, ça, c'est, il faut le faire.
Mais non, il n'y aura pas d'initiative. Enfin, ils ne vont pas vous relancer. Ou ils ne vont pas vous dire, tiens, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, donc, si vous n'avez pas été contacté avant et le CDD se termine, c'est qu'a priori, là, c'est terminé. Donc là, prenez l'initiative. C'est peut-être la meilleure des choses, quand même.
Oui, et juste une dernière chose. En cas de transformation, en requalification du CDD au CDI, est-ce que c'est sur la même base du CDD ou est-ce que je peux renégocier ?
Il n'y a rien qui vous interdit de renégocier, mais en règle générale, alors d'abord l'ancienneté sera à partir de votre premier CDD, ça va rester sur les mêmes bases. Maintenant, voilà, même chose, vous savez, il n'y a pas une ligne directrice. C'est en fonction de votre tempérament, de éventuellement de votre bagout, de vos compétences. Est-ce qu'en face ils sont ouverts ou pas ? Donc, ben oui, il n'y a rien qui interdit de négocier à la hausse son salaire ou ses conditions de travail, bien sûr.
Bon, c'est vrai qu'on essaie toujours d'avoir un petit peu plus.
Légitimement, monsieur.
Bien, merci Jamel pour votre question. Rapidement, c'est Samia qui est avec vous, Maître Serran, au 01-53-48-3000. Samia, bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour Maître Serran.
Bonjour Samia.
Je suis contente d'être avec vous. Hein.
Bah, dis donc, le plaisir est partagé.
Bien sûr.
Franchement, je suis contente.
Vous êtes contente d'être avec Maître Serran ?
Avec vous deux, franchement, et toute l'équipe.
Ah, bon, ça va. Bah,
pas qu'avec Maître Serran.
Ça fait plaisir.
Ouais, donc déjà, je la trouve moins sympathique déjà.
En plus.
Alors moi j'ai une petite question, c'est pas pour moi, c'est pour un ami. Vous allez rigoler parce que ça va être un peu sur le même thème que Shadia qui vous a appelé il y a quelques instants.
Shadia, elle, à mon avis, elle avait trop de maris.
Ouais. Justement, alors mon ami s'est marié avec une Française, donc c'est son quatrième époux.
Ah ouais, non, mais là, on a battu Shadia. Shadia, ça va être le troisième.
Je vous l'ai dit, c'est
vrai. C'est Liz Taylor, en fait.
Ah ouais, donc, d'accord. Bon, lui, donc quatrième époux.
Voilà, donc il a
quitté... Même plus dans les occasions, quoi. C'est-à-dire, c'est à mettre à la casse direct. Y a pas de, ça ne se travaille pas, ça ne se refait pas. Il n'y a pas de prime à la casse pour ça, il n'y a rien.
C'est pas vrai, je vous ai dit que bien lavé, c'était comme neuf.
Donc voilà, c'est son quatrième époux. Donc lui a quitté le domicile.
Ah, pas de
il a fait une main courante, c'est sa troisième main courante. Apparemment, ça se passe très mal. Bon, je ne rentre pas dans les détails.
Ah, la main courante, donc, c'est madame ou c'est monsieur? Vous, c'est monsieur. Votre ami, c'est qui? C'est madame?
C'est monsieur.
Ah, c'est monsieur, d'accord.
C'est monsieur, ouais. Donc, lui est arrivé, bien sûr, sans papier. Elle, elle s'est mariée avec lui, il a eu ses papiers, tout ça. Donc,
ouais.
Donc il veut demander le divorce, mais bien sûr, il a peur de, qu'on lui retire tous ses papiers.
Oui, bah, en tout cas, j'imagine...
J'ai une question, maître Serran. Ouais. Attendez, Samia, je suis curieux. Il a quel âge et elle a quel âge?
Alors, elle a 42 ans et il en a 34.
D'accord.
Oh, ça va, bon, pour qu'être mariée, je pensais qu'elle était plus âgée que ça.
Mais les autres, enfin, vous n'avez peut-être pas l'info, les autres maris, ils étaient dans la même situation que votre ami,
oui,
ils n'avaient pas de papier?
Oui, tout à fait.
Oh, c'est chaud, ça.
Ouais, d'accord. Voilà, ouais. Donc, voilà. C'est une filière à elle toute seule, en fait. le truc, c'est ça, ouais.
Franchement, je ne sais pas, mais ça porte à confusion.
Quoi. Bah oui, alors d'abord... Moi, ce qui me surprend, c'est que votre ami ait pu déjà être régularisé, puisqu'en règle générale, les autorités préfectorales sont très soucieuses de savoir dans quelles conditions on s'est marié. Et j'avais presque dire, mène une enquête pour savoir si cette femme est une première main ou pas, si je puis m'autoriser l'expression, juridiquement parlant, évidemment.
Oui,
donc,
oui, oui.
C'est vrai que la préfecture contrôle ça pour voir si le ou les premiers maris étaient ou pas en situation irrégulière. Donc, si vous me dites que oui...
Ouais.
Il y a déjà une défaillance de la part des autorités préfectorales. Pour autant, c'est vrai que s'il engage une procédure de divorce, il a intérêt d'apporter des éléments très sérieux. C'est-à-dire que ça ne peut pas être l'équivalent d'une procédure de divorce à l'amiable. La préfecture,
ouais,
évidemment,
ouais.
Donc, elle va sentir, pardon pour l'expression, la patate. Après, il faudrait, mais alors, est-ce qu'il a vraiment des éléments sérieux? Vous voyez, c'est des histoires de violence, c'est des histoires, le fait d'être complètement délaissé par madame, enfin...
Bah écoutez, moi, d'après lui, après, je ne suis pas...
Oui, non, mais bien sûr, bien sûr.
Voilà, mais d'après lui, bon, après, je ne remets pas la faute sur madame, je ne la connais pas, mais d'après mon ami, ce serait elle qui serait violente, qui serait vulgaire, qui l'a foutu à la porte plus d'une fois, donc c'est sa troisième ou quatrième main courante. Donc là, cette fois-ci, il a vraiment pris la porte.
Bon, mais il y a un vrai risque, hein. Vous avez bien compris que y a un vrai risque, et en plus, compte tenu du passé de madame. C'est-à-dire que la préfecture pourrait dire, attendez, enfin voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est une filière à elle toute seule, donc monsieur ne pouvait pas ne pas savoir que... Mais il n'y a pas mille options. Donc si vous me dites que ça sent le soufre, bah oui, qu'il engage la procédure, et en tout cas, il faut qu'il tente... d'axer sa procédure sur la notion de faute. Et ça va être primordial parce que j'imagine que madame, en toute mauvaise foi, dira que, bah, qu'elle a été, entre guillemets, trompée, mais je ne parle pas trompée physiquement, mais au niveau des papiers, ce à quoi il pourra rétorquer que, voilà, que c'est quand même fort de café puisque vous me dites que c'est le quatrième mari.
Oui.
Mais pour monsieur, c'est, les personnes qui sont dans cette situation sont toujours en position délicate. C'est l'injustice, c'est ça. Alors parfois, celui qui n'avait pas de papier, il est de très mauvaise foi, mais parfois, il est de très bonne foi. Et puis, c'est lui qui reçoit le coup de gourdin sur la tête. Et ce, d'autant plus, et Philippe vous posait la question, est-ce qu'il y a une différence d'âge? Alors, dans l'absolu, vous me direz que vient faire l'âge ici. Sauf que dans l'inconscient, et dans l'inconscient même des autorités préfectorales, quand madame est plus âgée que monsieur, c'est qu'a priori, il s'est marié avec elle, pas pour... ces critères physiques, mais
et puis, on sait rien. Non.
On peut
les femmes de 40 ans aujourd'hui sont magnifiques.
Ouais.
40
d'accord,
ans, 50 d'accord. ans, c'est la nouvelle
d'accord.
trentaine,
bon,
hein,
donc, bon, d'accord. Bon, donc c'est la nouvelle trentaine et elle est très belle. Mais justement, peut-être la préfecture, elle dit, mais elle est trop belle. Pourquoi vous êtes marié avec elle? C'est peut-être ça le truc. Donc, il part pas sur de bonnes bases, hein, sincèrement. Hein.
C'est
ça va être délicat.
C'est ce que je me suis dit, mais après...
Non, mais il n'y a pas d'autre option, il ne peut pas rester avec elle telle que... Et puis le pire, ce serait qu'elle prenne l'initiative. Vous voyez, elle pourrait dire, bah voilà, il m'a quitté, ou il est violent, et ainsi de suite. Donc il vaut peut-être mieux éviter de la laisser prendre la main dans cette procédure, et puis, alors qu'il engage cette procédure, mais pour être tout à fait honnête, ça va être quand même assez borderline pour lui. Hein.
Parce que moi, j'ai vu ses SMS, elle lui a dit qu'elle demanderait le divorce.
Ah ben, qu'il les garde, ses SMS.
Ah oui, là, de toute manière, oui, ça faut les conserver. Mais souvent, je dis aux clients, il y a une c'est une sorte de course. Donc, ce serait bien qu'ils prennent l'initiative.
D'accord, ok. Je peux me permettre de lui donner vos coordonnées ?
Avec plaisir. Écoutez, il n'y a pas de difficulté. Je vais je vous redonne mon numéro 06. Vous l'avez peut-être ? Bon, ben, je vais le donner pour les autres, pour tous ceux qui veulent m'appeler, qui me trouvent sympathique. Oui. 06, il y en a, mon cher Philippe.
Non, enfin, oui.
Bon, 06 62 58 59 64. Et éventuellement un mail, maître.serran@gmail.com.
Samia, on vous fait un gros bisou. Merci pour votre appel. Maître Serran, il va falloir attendre jusqu'à vendredi prochain pour vous retrouver. Le temps est long. Hein.
Ouais.
Demain, je vous donne rendez-vous avec Sabrina Ali Benali, l'interne qui avait interpellé Marisol Touraine. On parlera de la situation dans les hôpitaux. Et lundi, l'ostéopathe de Pamela Anderson sera là, lui-même. Il est ostéopathe et ventousothérapeute. Et je sais que vous avez drôlement besoin d'un ventousothérapeute.
Dans d'autres circonstances, j'aurais dit je préfère voir Pamela Anderson, mais j'aurais préféré la voir il y a au moins 40 ans, parce que là, maintenant, elle ressemble à rien.
Bien, Maître Serran, gros bisous à vendredi.
Je vous embrasse.
Retrouvez à votre service tous les jours, de 9h à 10h, et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.